Le marathon des mots présente, les nuits d'été, Thomas Flaho, août. Dans l'atelier C, toute la nuit combattre le sommeil était facile. Il suffisait à Mehdi de rester debout. Cette nuit, Louise est à ses côtés, qui dort, qui respire. Pour trouver le sommeil, il faut se tourner et se retourner sans bruit, sans la bousculer. Un tour sur lui-même, Louise bouge. Un effleurement de dos, Louise grogne. Et avec l'exaspération, les gestes se font plus brusques. Un coup de coude, Louise se réveille, se lève si rapidement du lit que Mehdi le devine. Comme lui, elle n'a pas dormi. Ils ont couché leurs insomnies l'une contre l'autre. Lui, son corps habitué à la vie nocturne rétif, au sommeil, elle, tourmentée par la journée tout juste écoulée, le départ de Thomas qui n'a depuis répondu à aucun de leurs messages. « Viens, Mehdi, on sort. Il y a un endroit que je voudrais te montrer. » L'endroit ? C'est un gouffre d'obscurité creusé à la lisière de la ville illuminée. Un endroit interdit, comme l'indique le panneau accroché au grillage à travers lequel Louise se faufile. C'est la Rodiaceta. Ce nom ne désigne rien d'autre qu'une ruine. Une ruine d'usine. La combe désignait autant le village que l'usine. Puis, l'usine était partie à une cinquantaine de kilomètres à Boncourt. Le nom s'était détaché de la géographie pour devenir une simple enseigne pouvant être plantée n'importe où. Ils fabriquaient du tissu et puis ils ont fermé. Ça doit faire 40 ans qu'il y a cette ruine. C'est devenu un lieu de promenade d'une certaine façon. J'ai fait des fêtes, moi, ici. Mais ils parlent de la détruire maintenant. Mehdi songe que si ce nom lui est si étranger, pour beaucoup d'hommes et de femmes semblables à lui, semblables à son père, il a signifié quelque chose s'approchant du mot « foyer ». Derrière le grillage, l'usine se laisse deviner au milieu d'une obscurité pleine, monolithe, noir et menaçant, géant, endormi. Dans la lueur de leur téléphone, les silhouettes de deux pelleteuses se dessinent. Pénétrant dans l'usine, le bruit des gouttes, rythme irrégulier qui résonne comme résonnent leurs pas dans un escalier aux marches effritées. À l'étage, le peu de lumière provenant du dehors faiblit encore. Les téléphones éclairent un atelier vide, aussi vide que doit l'être désormais l'atelier C, plus vide encore. Un trou dans le plafond permet d'entrevoir, au clair de lune indécis qui s'y faufile, un tas de gravats. Les pieds glissent sur la poussière mouillée qui macule le sol de béton. Chez la combe, les murs tiennent encore. Ici, ils s'écroulent sans fracas, se désagrègent, s'évaporent. Ils annoncent la disparition prochaine de la ruine. Si, comme Louise le dit, cela fait presque 40 ans que cette ruine se tient au bord du Doubs, pourquoi la détruire aujourd'hui? Dans 50 ans, personne ne se souviendra qu'elle a un jour existé. Des gens arpenteront les allées du parc ou des résidences qui auront poussé là, des résidences pareilles à celles qui entourent désormais les verrières. Le mot « usine » ne subsistera peut-être dans leur lexique qu'à l'état de fantôme, comme subsistent dans celui de Mehdi les mots « calèche », « rationnement », « service militaire », « prolétariat », « lutte des classes ». Les usines auront alors complètement disparu. Elles seront légendes. Le monde ouvrier, lui, existera toujours, Mehdi le sait, puisqu'on ne prépare pas une autre vie aux gens de son espèce. Mais il sera plus invisible que jamais. Terré dans les derniers angles morts d'un monde aussi ouvert que cette usine désaffectée. Soudain, une autre lumière brille au bout du vide. Une lampe de poche, des bottes claquent. Entre deux éblouissements apparaît ce qui doit être la silhouette d'un gardien.
Y a quelqu'un ?
Mehdi se cache derrière un pan de mur. Louise, derrière une bâche en lambeaux pendant du plafond. Ses franges de plastique, ce rideau opaque et troué est la seule chose qui les sépare. La crainte d'être vu les traverse, retient leur souffle.
Sur le parking, un homme en uniforme l'attend, adossé à une voiture marquée du logo de la société de sécurité qu'il emploie. Cet uniforme, Mehdi le porte lui aussi. Il est passé le chercher dans les bureaux de la société en centre-ville, en sortant avec Louise de l'université. L'enfilé avait presque été un moment heureux. Traverser la ville en le portant avait été plus difficile. Une cloque s'est formée dès les premiers pas dans les Rangers neufs. La chaleur l'étouffe sous le tissu rêche et imperméable de son pantalon bleu marine. La gêne aussi, d'être vêtu de la même manière que ces types qu'il avait toujours regardés comme des aspirants flics, amateurs de bergers allemands et de ratonnades, trop bêtes pour devenir de vrais flics. Il ne s'était jamais douté que l'absence de travail le ferait un jour revêtir cet uniforme ridicule, comme beaucoup de ceux qui le portent, sans doute, non par ce désir pathétique de paraître puissant, mais par hasard, un sale hasard. Le type s'appelle Alexandre. Il a le double de son âge, ses traits sont bouffis et violacés, une texture de peau qui dit les litres d'alcool bu, comme le parfum trop fort qu'il a mis, le musc masque à peine les effluves anisées de Ricard. Y a qu'à marcher en fait, c'est comme une promenade, on fait une ronde à minuit, puis une ronde à 2 heures et à 4 heures. Tu fais juste la première avec moi ce soir, c'est pour te montrer. « Il y a des squatteurs, des fois. Avant, il y a eu des gens qui essayaient de vivre là. Quelle tristesse. Mais maintenant, c'est surtout les teufeurs. Si on en croise, tu me laisses faire. Comme ça, t'apprends. » Alors qu'Alexandre lui tend une grosse lampe de poche en métal, Mehdi se dit qu'il aimerait bien ne pas apprendre, se demandant quelle saloperie ce type cache derrière ce mot. « Apprendre. » Il s'approche du portail et en ouvre le cadenas. « Apprendre. » La porte grince. Il pénètre dans l'obscurité de la ruine. Marcher, tenir une lampe de poche, mettre un uniforme, c'est ce à quoi semble se réduire sa formation d'agent de sécurité. C'est ça apprendre. Les emplois qu'on le consent à lui offrir sont tous ainsi. Toujours. Seule sa présence importe. Dans l'usine en marche, comme dans l'usine en ruine, il suffit de porter un uniforme, polo rouge ou pantalon paramilitaire bleu marine, et de rester debout à ne presque rien faire. Comme si l'uniforme, le lieu et l'horaire étaient magiques, qu'il faisait de lui, en une seconde, un travailleur tout à fait qualifié pour la fonction qu'on lui assigne. Mehdi suit Alexandre. Il dirige la lampe de poche vers les silhouettes endormies des machines de chantier que son téléphone portable avait éclairées lors d'une nuit bien plus belle. Il emprunte le même escalier, débouche dans le même atelier désert et délabré, éclaire l'endroit où il s'était arrêté, Louise et lui se cachant de la lampe d'un agent de sécurité qui devait être Alexandre. Derrière la bâche de plastique, il aimerait découvrir Louise. Elle est seule en ce moment, dans cet appartement qui est devenu subitement le leur. Elle se demande sûrement ce qui a pu le rendre si taciturne, se blâme d'avoir dit quelque chose, fait quelque chose d'indélicat, quand la réponse est simple. Devant le professeur et Louise, Mehdi s'est senti honteux de n'être que Mehdi. Tu peux parler, hein? Ils nous disent de pas trop faire de bruit pour pas alerter les gens qui sont là, mais bon, il n'y a rien à voler ici. Et c'est tellement grand que, franchement, ils pourront pas nous reprocher d'avoir rien vu s'il se passe quelque chose. Moi, je dis, s'ils nous entendent et qu'ils se barrent ou qu'ils se cachent, c'est mieux pour tout le monde. Ainsi va la nuit. À l'usine en marche, comme à l'usine en ruine, on fait ce qu'on peut pour esquiver. Tu fais ça depuis longtemps ?
Je fais les rondes ici depuis 2 ans.
Et ça t'arrive de croiser des gens ? En fait, j'en ai jamais croisé. Je pensais que j'en croiserais parce que moi, je venais là quand j'étais jeune. J'ai pris mes premières cuites ici. Mais je crois que les gens viennent plus. Regarde. Il pénètre dans une cabine aux vitres brisées, similaire à celle où Romuald passait ses nuits chez Lacombe. Contre la planche encastrée qui a dû un jour servir de bureau, trônent deux canapés rabougris par le temps et l'humidité. C'est là qu'on venait, on s'asseyait là. Ça me fout un coup qu'il a détruit cette usine quand même. J'aimais bien venir ici. Alexandre et Mehdi reprennent leur ronde. La nuit avance. Et quand l'heure est venue de partir, Mehdi retourne seul au parking. Le sommeil de la ruine le tire vers son propre sommeil. La moto le tire dans la nuit déserte de la ville. Le corps de Louise bientôt près du sien. Pour une dernière nuit pleine et entière, avant de retrouver la cadence harassante du travail nocturne qui, il le sait, l'éloignera d'elle.
Le lendemain, Thomas quitte Blancheroche avant les autres. Il a fui l'appartement enfumé et sinistre, lui préférant le silence de la vallée qui, par contraste, a cessé d'être morbide. Il est seul sur le parking de Lacombe quand les motos de Nicolas, Steven et Mehdi apparaissent au rond-point. Le bonheur ressenti à la vue de Mehdi s'éclipse lorsqu'il devine derrière lui, accroché à sa taille, la silhouette de Louise. Qu'est-ce qu'elle fait là ? C'était pas prévu. Quand elle descend de la moto, ôte son casque, le visage caché par ses longs cheveux en bataille, Thomas distingue un sourire timide derrière sa chevelure. Il l'embrasse et ne lui pose pas de questions. Il l'entraîne en tête du groupe vers cette usine dans laquelle, pour elle, il est presque fier de faire figure de guide. Passer le badge dans la fente du lecteur contre la porte automatique, monter l'escalier qui s'allume pour eux. Ce qu'il lui montre, c'est un endroit que leur père ne leur avait jamais montré, quoiqu'il y ait sans doute passé plus de temps que dans chacune des pièces du pavillon des Verrières. Il a l'impression de faire découvrir à Louise un album de famille caché. Dans l'atelier, le noir est dense et sans contour, sans autre lueur que celle s'échappant du bureau pour venir s'épuiser dans le vide. De ce vide, de cette obscurité, Stylo et Romuald émergent soudain, polo gris et polo rouge buvant le peu de lumière perdue dans l'atelier. Comme s'ils se tairaient dans la nuit. Des animaux qui, après s'être fondus dans le décor de l'usine, se fondent dans son vide. Ils embrassent Thomas avec une chaleur bien loin de la dignité de leur poignée de main passée. C'est un ami qu'ils retrouvent. Romuald amène les opérateurs dans son bureau vitrine. Louise, seul, part se perdre dans l'usine. La veille, allongée sur son lit, elle avait tenté de ne pas s'endormir, d'attendre le retour de Mehdi. Mais dans l'obscurité, le sommeil l'avait rattrapée par surprise. Un sommeil si léger qu'une sonnerie de téléphone l'avait dissipé. Il était tard, la nuit était pleine et dans le couloir, Mehdi murmurait. Entrant dans la chambre, voyant Louise assise contre le mur qui sert de tête de lit au matelas posé à même le sol, son sourire s'était aussitôt épuisé dans un soupir. Au téléphone, c'était Romuald. Il n'avait pas très envie de le voir, avait-il dit à Louise. Plutôt, il n'avait pas très envie d'aller chez Lacombe pour la soirée. Il venait de faire sa nuit de formation, ce qu'il aimerait maintenant, c'est transformer les quelques nuits restantes en vacances. « T'es sûr ?» Un sentiment étrange avait soudain saisi Louise. « Je pourrais venir avec toi si tu veux. »« Qu'est-ce que tu ferais là-bas ?» Un désir d'entrer dans cet endroit où Mehdi, Thomas et son père se sont épuisés, ont détraqué leur quotidien en offrant à l'industrie et à l'argent les dernières choses qui ne les soumettaient pas à leur pouvoir. Le sommeil et le rêve, ce qui les attachait encore à une nature perdue depuis des millénaires, le fait d'exister, de construire sa vie dans l'alternance des jours et des nuits. On verra. Et Mehdi s'était couché boudeur. Il s'était pourtant décidé à aller chez la combe quand, le lendemain, dans l'après-midi, la pluie avait cessé. Il n'avait pas expliqué pourquoi. Il avait simplement pris deux casques et ses clés, mis sa veste. On y va. C'est la première fois que Louise visite la combe et l'usine est déserte. Elle traverse un atelier sur le sol duquel ne se voit plus que des lignes jaunes dessinant, sans doute, un chemin entre des machines disparues. Écoute les pas de Mehdi qui l'a suivie, qui marche derrière elle. Le toucher étouffé de ses baskets. D'escalier en vestiaire. De hangar en atelier vide, elle joue à se faire suivre par Mehdi. Ne se retourne vers lui qu'au dernier étage lorsque, d'un seul coup, la lumière s'allume. Il lui sourit, menton levé au milieu d'une large pièce entourée de murs de parpaings, une pièce jamais utilisée. Silencieux, il l'attend. C'est à Louise de le rejoindre, elle le comprend. Depuis la veille, le silence de Mehdi la tourmente. Si elle ignore quelle faute elle a pu commettre, elle sait en être responsable. Ça te rend pas triste d'être revenu ? Ça me fait rien du tout. Dehors, les rires sonores des opérateurs se mêlent au bruit d'objets qui s'entrechoquent, de meubles jetés, de bouteilles en verre brisées. Ils doivent être en train de retourner furieusement la cour et Louise ne fait que les entendre. Suspendue aux lèvres de Mehdi qui se collent aux siennes. Leur premier baiser depuis que, la veille, tout avait semblé se gripper.
Mehdi ment un peu. Il ne ressent pas rien. Il ressent le vide. Les gens comme moi ne sont là que pour remplir brièvement des espaces vides, pense-t-il. C'est à ça que nous servons. Nous sommes des mottes de terre que l'on déplace dans des trous. Ces trous, nous sommes encore les seuls à pouvoir les remplir. Plus pour longtemps, dit-on. Les trous deviennent rares, se rétrécissent. Le père disait « Trouve autre chose que l'usine ». Le père disait « Trouve quelque chose à faire. Fais-toi ton trou ». Tant qu'il y a des trous, il y aura des hommes pour s'y épuiser. Mais le creuser son propre trou, c'est autre chose. On ne m'a jamais expliqué comment fonctionnait une pelle, parce que chez moi, il n'y a pas de terre à creuser, il n'y a que le sol goudronné d'une forêt de béton. Il reste bien sûr les pioches, les marteaux, les burins pour détacher le goudron et le jeter à la gueule de ceux qui creusent des trous pour y faire travailler d'autres qu'eux. Mais aujourd'hui surtout, il y a Louise. Les yeux perdus dans une nuit depuis longtemps espérée, une nuit sans machine. Mehdi sent que le vide de cet atelier qu'il traverse main dans la main pour rejoindre la cour, Louise l'a soudain rempli. Le vide n'est plus qu'un décor dans lequel seule Louise existe. Le visage de Louise est un foyer. Ses paroles et ses baisers tracent les frontières d'un pays nouveau. Là, il n'y aura pas de place pour cette tristesse, cette colère ressentie dès le réveil, depuis toujours, se souvient-il. Dans la cour, les cinq opérateurs ont l'air de se préparer à accomplir un rite païen. Thomas, Romuald et Stylo entourent un étrange tipi formé de planches arrachées à des palettes qui renferment le bureau. Mehdi ignore ce qui a conduit Romuald à ne pas amener le bureau jusqu'à sa voiture, à s'arrêter au milieu de la cour et à le laisser là. Il avait froid, peut-être. Il a décidé d'en faire un bûcher. Nicolas déverse sur le tipi le contenu d'un bidon d'acétone, tandis que Steven allume les feuilles de papier roulé faisant office de torche. Stylo, lui, tient à réciter un autre père, dont les mots sont inaudibles, noyés comme tout son corps et son esprit dans le porto. Et tous ensemble, ils s'approchent du bûcher, l'incendie. Le feu prend par le bas, noircit les lattes et lèche bientôt les pieds du bureau. Flamèche verte et chimique traversant le contreplaqué. C'est sans doute l'acétone qui fait exploser le bûcher. s'effondrer le tipi projetant dans sa chute des gerbes d'étincelles qui descendent calmement dans l'air sombre jusqu'au sol. Tous reculent, effrayés. Seul Romuald se tient immobile. Enchanté, il regarde sa blessure se consumer dans le feu. En arrière, Mehdi contemple le désastre. Il semble que tout ce qui pouvait rester dans l'usine soit là, flambant, montant dans l'air en étincelles et fumées pour se déposer en particules sur les murs, les bosquets, les sapins, comme on jette au vent les cendres d'un défunt. Et c'est beau. C'est une belle manière de dire au revoir à cet endroit.